Décryptualité semaine 11. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien, pour cette semaine, on est toujours à distance, mais on essaye des trucs un peu acrobatiques pour avoir un meilleur son. On espère que ça va marcher.
En tout cas, moi je t'entends très bien. Tu es fort et clair dans mes oreilles, mais j'espère que l'enregistreur sera d'accord avec nous.
Voilà, nous on s'enregistre chacun de notre côté et ça devrait être mieux que la semaine dernière. Donc Mag, qu'est-ce qu'on a au sommaire ?
Alors, 5 articles assez intéressants. On va commencer par celui de westfrance.fr, Gulliving, l'informatique libre et innovante.
Donc Gulliving avec deux L, c'est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres dans la vigne. Donc c'est toujours bien, Westfrance est un gros journal, donc ça fait plaisir de voir ce genre d'association mise en avant dans un gros journal.
Et manifestement, ils vont avoir de nouveaux locaux, donc dès qu'on sort du confinement, on va tous aller se les squatter.
Ouais, parce que le raisin, c'est bon, c'est pour ça.
Alors, ID News, Wikipédia veut faire passer les GAFAM à la caisse.
Alors, tu viens de rajouter le M au titre hein, dans GAFA, bah, mais c'est naturel, hein, c'est un réflexe, je sais. Et donc, effectivement, bah, il est question de faire des systèmes d'entraide avec les grosses boîtes. Alors, d'entraide, ça reste compliqué parce que Wikipédia, c'est pas supposé être son business model, mais effectivement, il s'intéresse à faire des accords de travail avec les GAFAM, notamment, qui utilisent déjà beaucoup Wikipédia et ne contribuent pas énormément, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qu'il faudra.
Sûrement pas assez.
Bon, faut voir, c'est peut-être bien de ne pas avoir les GAFAM dans Wikipédia. Moi,
c'est un peu le problème.
C'est une mauvaise nouvelle.
Tom's Hardware, l'entreprise chinoise Luxon, va lancer 2 processeurs gravés en 12 nanomètres cette année par Rémi Bouvet.
Alors, une boîte qui fait des microprocesseurs, rien de bien nouveau, mais bah, ça reste un petit peu étrange et inquiétant toujours, parce que les Chinois, on n'a pas toujours confiance, hein, tout simplement, c'est une guerre économique qui a lieu avec nous, les Occidentaux, et donc ça peut poser problématique. Mais par ailleurs, ils sont plutôt libres, en fait, et orientés dans le côté partage du savoir. Et on sait, on se rappelle que Richard Stallman, notamment, utilise des ordinateurs dont les puces sont souvent fabriquées en Chine, ou en tout cas c'était le cas à une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais, il avait plus confiance dans ces puces-là que dans les puces d'Intel, qui avaient bah, des petits trucs embarqués qui pouvaient permettre le piratage à distance.
Les puces d'Intel, elles sont construites en Chine aussi, je suppose.
Pas toujours à Taïwan, souvent. Hein. C'est souvent Taïwan qui produit pas mal. Ouais.
Silicon, open source le top 10 des métiers en tension par Ariane Becky.
Bon, allez, ça commence avec data scientist. C'est très à la mode et puis il y en a toute une liste. Effectivement, si vous voulez trouver du boulot en entreprise, voilà une bonne orientation pour commencer.
C'est-à-dire des métiers où il n'y a pas de chômage ?
Peu de chômage, surtout si on est un temps soit peu motivé, oui.
Next Impact, le Conseil d'État refuse de suspendre le partenariat entre l'État et Doctolib, par Marc Ries.
Donc, c'est un sujet qu'on a abordé la semaine dernière. La santé, les données de santé, les institutions, il y a beaucoup de choses qui sont partagées, qui nous embêtent bien. Le Conseil d'État a pris des décisions là-dessus, officielles. Interop, qui est une association montée pour un petit peu se bagarrer sur le sujet, à discuter de cette décision. Donc allez jeter un œil sur leur site, il y a des liens sur leur revue de presse qui vous mèneront à ces textes-là.
Ce qui est dommage, c'est que ce partenariat s'appuie surtout sur les services d'Amazon.
Ah oui, mais ça, les GAFAM sont partout, on le sait.
Et alors de quoi on parle ce soir, Luc ?
Des GAFAM ? Non ? Ah bon ?
Bah non.
Non, soit on vous met le feu, c'est ça ?
Ah oui, c'est pas mal.
Là, je me sens tout feu, tout flamme.
Mais on peut parler de cloud, effectivement.
On parle de l'incendie d'OVH.
Les incendies ?
Les incendies, oui. On en a beaucoup parlé partout dans la presse la semaine dernière, chez les geeks notamment. Donc OVH, c'est un hébergeur français qui fait du cloud, donc qui propose des serveurs pour que des entreprises, à droite à gauche, puissent héberger leurs serveurs et leurs activités. Et donc la semaine dernière, il y a eu un spectaculaire incendie dans leur data center du côté de Strasbourg, qui a pris feu. Et donc il y a eu plein de blagues, comme quoi les données étaient enfin dans le cloud pour de vrai, puisqu'elles sont parties en fumée. Voilà. Pourquoi tu pleures, Magan ?
Nous avons une victime avec nous, interview sur le trottoir.
Effectivement, la boutique en ligne de ma librairie était manifestement chez OVH, et donc, pouf, elle a été totalement inaccessible pendant une semaine.
Je sais pas ce que tu veux, elle était bien dans le cloud, on l'a vu sur les images, un magnifique feu gigantesque qui partait en une grande cheminée et avec une fumée bien noire au-dessus, voilà où était ta boutique.
Et les livres, ça brûle bien, hein, c'est connu.
Les octets aussi, il semblerait, hein, ça brûle pas mal du tout. Et donc, il y a eu plus de 3 millions de sites. Alors, c'est un compte un petit peu à l'emporte-pièce, parce que c'est compliqué de mesurer exactement. Mais on considère qu'il y a eu plus de 3 millions de sites qui ont été arrêtés à cause de cet incendie. Ils ont éteint complètement un des 4 data centers qui étaient sur le lieu. Ils ont éteint un deuxième, parce qu'il a été touché, il était impacté par le premier incendie. Donc, c'était les 2 et 1 au niveau des data centers. Et puis là, il y a un jour ou deux, le premier data center était en train de repartir, qui n'était pas touché par les flammes. Eh bien, il a eu une grosse poussée de fumée lui aussi, de chaleur. Et donc, ils l'ont arrêté à nouveau. Et ils ont considéré qu'ils ne leur rallumeraient plus. Ils vont déplacer les baies de serveurs qui sont à l'intérieur. Et ils vont essayer de les migrer vers le quatrième, je crois. Bon, de la même manière qu'ils essayent de récupérer les données qu'ils peuvent dans le deuxième. Mais a priori, c'est le deuxième, lui, il a bien, bien cramé. Alors que le premier, c'est juste que voilà, il y a eu un petit départ de feu, de rien du tout, quoi.
A priori, c'est au niveau des batteries.
Alors, le premier, c'est les onduleurs qui sont suspectés.
Oui, donc un onduleur, c'est un dispositif qui est censé garantir à la fois la stabilité du courant et un minimum de temps en cas de panne électrique pour que tout ne se coupe pas instantanément. Donc, c'est des sortes de batteries, de systèmes voilà, de régulation qui fait que l'infrastructure va tenir X minutes sans courant, ce qui laisse le temps de démarrer des groupes électrogènes si on a une grosse panne de courant.
Alors, ta boutique, Mag, elle est revenue ?
Elle est revenue, oui.
Ah, avec les mêmes données ou t'avais perdu des choses ?
A priori, avec les mêmes données, j'ai rien perdu.
Parce que t'avais fait tes backups régulièrement ?
Parce que j'ai mon fournisseur qui fait des backups régulièrement. D'ailleurs, je remercie la société...
pas de publicité
qui me... Oups, pardon, désolé.
C'est des Alsaciens qui bossent pour les libraires de France. Hein, donc,
voilà, qui sont très efficaces.
Mais pour le coup, effectivement, on ne sait pas s'ils ont fait des backups eux-mêmes ou s'ils ont été faits par le fournisseur, parce que c'est quelque chose qui est toujours un petit peu compliqué, qui peut être proposé dans les solutions de cloud, et BH le fait, ils font des solutions de backup, mais il semblerait qu'il y avait des clients qui étaient backupés sur le site, qui étaient même backupés dans le même data center, et quand tout le data center brûle, ce qui n'arrive jamais, hein, eh bien ils ont perdu leur backup.
Jamais, jamais. Donc là, évidemment, un data center, c'est sécurisé, hein, ça ne flambe jamais. C'est redondé, comme on dit, il y a ce dont on parlait, les onduleurs, l'électrogène, il y a des extincteurs partout. Normalement, c'est pas censé prendre feu comme ça.
Alors non, pas dans celui-là en particulier. Il avait un design un peu original et qui m'impressionne, oui. Je trouve. C'était des containers assemblés entre eux autour d'un pôle central, avec, je suppose, des escaliers, j'ai pas regardé dedans, peut-être même des ascenseurs ou des monts de charge. Et le but, c'était d'avoir un refroidissement passif avec un effet cheminée qui allait absorber la chaleur des serveurs, et qui est énorme, et la monter dans cette cheminée de containers, et faire en sorte que ça aspire à travers les containers qui n'étaient pas imperméabilisés. Et donc, c'était quelque chose d'un peu innovant et pas très cher, donc intéressant, qui leur permettait de monter rapidement des data centers. Hein. On empile, on empile, on empile.
On imagine que l'effet cheminée, quand ça commence à cramer de partout, c'est super bon.
Bah, c'est clair qu'une cheminée, c'est fait pour évacuer l'air du feu. Donc, s'il n'y a plus de feu, ça n'a aucun intérêt. Donc, s'ils font une cheminée, forcément, c'est parce qu'il va y avoir du feu en dessous.
Alors là, vraiment, c'est mauvais ce que tu dis, c'est mal.
Tu trouves que je me suis enflammée ?
Oui, c'est pas ça. Honnêtement, alors...
Au-delà de la moquerie qui nous amuse bien, il y a quand même un intérêt dans cette histoire, hein, c'est de rappeler que le cloud, ça reste les serveurs et l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Là, Magali en a fait l'expérience douloureuse. Ces données sont dans le cloud, bah en fait, il y a effectivement une adresse physique avec des serveurs qui peuvent prendre feu ou qui peuvent avoir tout un tas d'autres problèmes. Et qu'effectivement, quand on concentre plein d'éléments au même endroit, le jour où ce truc-là tombe, ça pose problème. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on avait eu un truc, bon, pas avec un gros incendie, mais en décembre 2020, c'était les DNS de Google qui sont mis à planter, on en avait parlé dans le podcast.
DNS, hein, c'est des répertoires d'adresses qui permettent de nous rediriger vers les bons sites web à partir de ce qu'on tape dans les barres d'adresses.
Voilà, donc à l'époque, il y a plein de sites et de services Google qui n'étaient plus accessibles, donc ce qui a empêché les gens de bosser, par exemple, mais également des objets connectés, notamment domotiques, qui ne pouvaient plus se connecter à Internet et qui en avaient besoin pour fonctionner, et des gens se retrouvaient coincés chez eux, avec les volets qui ne pouvaient plus s'ouvrir, ou des choses comme ça. Mais donc ça montre qu'à tout concentrer, finalement, on crée des points de fragilité.
Alors, les solutions, si on commence à en parler, c'est de redonder, hein, c'est l'essentiel, et puis de solidifier un petit peu ce qu'on a comme data center, mais même comme ça, on sait que ça va tomber à un moment donné. Hein.
Là, je pense qu'ils sont en train de jouer avec le feu.
Oh.
Alors, ouais, le truc, c'est que même si on sécurise à mort et qu'on a des gens très compétents, plus plein de matériel et plein de choses, etc., sur la totalité des équipements qu'il y a dans le monde, il y aura toujours un événement problématique. Moi, ça m'est arrivé au boulot, hein. On avait tous nos serveurs dans un super service haut de gamme avec tous les sécurités électriques, les ceci, les cela. Et puis, ça ne pouvait pas ne pas marcher. Et puis, ben, voilà, ça arrivait pendant 3 jours, tout s'est cassé la gueule et plus rien n'a marché. Et en dehors du monde de l'informatique, hein, ben, les centrales nucléaires, c'est rare, mais Fukushima est arrivé. Hein. Je veux dire, il y a toujours des situations exceptionnelles où les problèmes s'empilent les uns derrière les autres. C'est extrêmement improbable. Mais au fil des années, et quand on multiplie les lieux, bah, l'improbabilité, elle finit par... voilà, c'est comme au loto, hein, y a quand même quelqu'un qui gagne chaque semaine, ou presque.
Ouais, t'as pas de fumée sans feu, quoi.
Non, non, là, ça marche plus. L'image est trop étirée. Non, non, non. En tout cas, faut s'assurer de pouvoir remonter derrière, parce qu'effectivement, une panne, même si ça arrive très rarement, ça va arriver un jour, et remonter derrière, c'est bah, d'avoir donc, des backups, d'avoir des solutions de repli, de ne pas dépendre d'un seul point de blocage. C'est la chose qui va nous empêcher de travailler pendant des jours et des semaines. Non, non, il faut multiplier. Il faut décentraliser. Donc, pensez aux chatons.
C'est un peu la logique d'Internet, d'ailleurs.
Oui, mais oui, carrément. Internet a été fait pour survivre à une guerre nucléaire, dans une certaine mesure. Et ça a été imaginé à la fois par des universitaires et des militaires, avec vraiment ce côté, pas de centre qui puisse être détruit et tout foutre en l'air. Non, 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 il fallait quelque chose de décentré, à centrer, et donc ça garantit comme cela beaucoup plus de solidité, de fiabilité au système globalement.
Et puis peut-être qu'il faut prévoir d'autres tests que les pannes de logiciels.
Ah, tu penses à des tests en particulier, parce que, bon, alors des tests au feu, bien sûr, mais t'as d'autres tests en tête.
Bah, on avait parlé de singes ce week-end, de tests monkey, chaos, des choses comme ça, non?
Oui, c'était un truc, alors que c'est pour le coup purement informatique. Donc un fournisseur de services qu'on ne nommera pas, qui débranche différents éléments de son infrastructure pour voir si ça marche encore et s'ils arrivent à s'en sortir. Et donc, ils ont une sorte d'échelonnage de taille de singe. Voilà, le gorille étant le plus puissant, c'est les trucs les plus problématiques. Et ils ont un logiciel qui, de façon aléatoire, va débrancher des trucs, foutre le bordel dans l'infrastructure. Après, on peut le faire informatiquement. C'est plus compliqué à faire avec les incendies, quoi. Parce que mettre le feu aléatoirement à ces data centers...
Non, bah sans aller jusque-là, la SNCF, voilà, a l'air de faire des choses aussi où ils ont transformé en jeu des tests.
Des journées de jeu entiers où plusieurs équipes s'affrontent pour faire tomber les serveurs et créer plein de tests.
Alors, ils ne font pas ça sur la production, hein, la SNCF, ils font ça sur une pré-production. Mais...
T'es sûr ?
Oui, oui, ouais, enfin, j'espère.
C'est les petits joueurs.
Alors que le fournisseur dont tu parlais, là, qui fait les singes du chaos...
Il utilise l'armée simiesque.
Ah oui, l'armée des plus que 12 singes. Donc il y a des bonnes idées derrière tout ça, effectivement, il n'y a pas 36 solutions, c'est pour s'assurer que les solutions de repli, les backups fonctionnent, il faut les tester. Donc en fait, il ne faut pas des backups qui sont dans un coin et qui vont prendre la poussière pendant des années, non, non, il faut des backups qui tournent et qu'on utilise, il n'y a pas moyen de faire autrement. Je me dis que c'est ce qu'il faut que je fasse avec mon informatique, mais que je ne fais pas forcément, malheureusement.
Et donc après tous ces tests, on pourra donner le feu vert, quoi.
Oh là là, c'est... Bon, est-ce qu'on peut imaginer que ce genre d'événement puisse être un acte malveillant ? Alors, on n'a aucun élément ni soupçon qui irait dans ce sens-là, mais on sait, on en a parlé ces derniers mois, que des actes de malveillance, de désinformation, d'attaque déni de service, de piratage, etc., par des puissances étrangères, ça existe, c'est répandu. Est-ce qu'on peut imaginer que ce genre d'attaque plus brutale, de type « je mets le feu », soit possible ?
Ah, bien sûr, hein, mais effectivement, ça reste compliqué, parce qu'on passe sur du physique... Et les attaques qu'on voit d'habitude, c'est plutôt du logiciel. Et donc là, passer au physique, ça a des implications, des conséquences plus difficiles à jauger. Mais oui, oui, ça s'envisage. Hein. Stuxnet, c'était bien une attaque logicielle qui a foutu en l'air des centrifugeuses à uranium. Il y avait un passage au physique très compliqué. C'était des procédés industriels très lourds et avec des gens hyper compétents derrière. Mais oui, ça s'envisage, mais on n'a pas de preuves dans un sens ou dans l'autre.
Très bien, en tout cas, ça nous démontre que Internet, ça doit être réparti, et que c'est pas juste pour la communication, c'est aussi une question de résilience, de logique, et que les démarches de type chaton, de dégoogliser Internet, lancées par Framasoft, sont tout à fait pertinentes, et que on doit garder à l'esprit que mettre tous nos œufs dans le même panier n'est pas une bonne idée.
Et donc arrêter de jouer avec le feu.
Ok, donc je propose qu'on brûle Mag et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.